kelen tontot.
Bonjour à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1. Comme chaque vendredi, le métal fait son show sur Bike FM avec l'émission Check Me Load. Et aujourd'hui, du show il y en aura, je vais vous présenter un spectacle de Freaks tout à l'heure en milieu d'émission après quelques nouveautés. Un spectacle de Freaks, pourquoi ? Parce qu'on parlera aujourd'hui du nouvel album de Dusk of Delusion que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Mais aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'avoir en interview Benoît qui est le chanteur du groupe et qui viendra donc nous parler du premier album qui s'appelle Funfair, qui nous entraîne au cœur d'une fête foraine des années 1900 où on y rencontre pas mal de monstres qui, eux, nous ramènent à des soucis bien actuels. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Ce sera d'ici à peu près une demi-heure. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, vous retrouverez votre habituelle rubrique Sortez Cover avec une reprise encore une fois cette semaine. On va aller dans les années 80, mais je vais pas aller chercher ni dans la New Wave, ni dans la pop, ni rien. Aujourd'hui, on va rester dans le métal, au sens très large du thème, puisque c'est un morceau de Heavy que je vous proposerai en version trash. Voilà pour ce qui vous attend pour l'heure à venir. Et ben, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première sortie du jour, et ça va être du death pour commencer, avec The Crown qui sort aujourd'hui l'album Cobra Speed Venom. Alors quelques mots sur ce groupe The Crown. Ils nous viennent de Trollhättan. Ça ne s'invente pas, c'est vraiment une ville de Suède, alors rien à voir avec Manhattan. Est-ce que c'est la ville des trolls ? Je ne sais pas, ça demanderait à faire plus de recherches. En tout cas, le groupe a vu le jour en 90. Il a été créé notamment autour de Johan Lindstrand au chant, de Marco Tervonen à la guitare et de Magnus Olsfeld à la basse. Alors pour ce qui est du style, on est sur du death mélodique mélangé à du thrash metal. Les thèmes de prédilection du groupe, c'est la mort, la lutte contre la religion et puis la rébellion en général. Entre 1995 et 2004, The Crown va sortir 7 albums studio, dont les meilleurs sont clairement les deux premiers, hein, c'était The Burning en 95 et puis Eternal Death en 97, qui sont tous les deux parus à l'époque sous le nom de Crown of Thorns, qui était le premier nom du groupe. Ensuite, parmi les meilleurs albums, on pourrait aussi citer Possessed 13, qui est paru en 2003. Et l'année suivante, eh bien, le groupe va splitter. Il faudra ensuite attendre 2009 pour le voir réapparaître. Mais sans le chanteur Johan Lindstrand, qui va être remplacé par Jonas Stallamar sur l'album Doomsday King, qui sort en 2010, qui va pas laisser un souvenir impérissable. Ensuite, ce sera de nouveau silence radio jusqu'en 2015, avec la sortie cette fois de Death Is Not Dead, qui marque le retour du chanteur Johan Lindstrand. Mais là encore, on peut dire que le groupe peut mieux faire. Alors, pour vous dire la vérité, c'est du coup sans grand engouement qu'au départ j'ai accueilli Cobra Speed Venom. leur nouvel opus qui arrive donc aujourd'hui. Eh bien, j'ai eu tort, hein, puisque cette 10e production studio des Suédois, c'est une vraie bonne surprise. Ils ont fait appel pour la production à Fredrik Nordström, qui est quand même une pointure en matière de death. Et ce qu'on peut dire, c'est que Cobra Speed Venom, c'est un album accrocheur, inspiré, qui jongle efficacement entre brutalité du death et la hargne du trash. Alors, sans pour autant laisser de côté l'aspect mélodique qui, au contraire, est très présent, qui est parfois presque épique, hein. Et ben voilà, donc Cobra Speed Venom, ça grôle, ça blasse, ça va vite, c'est intense. The Crown signe là, à mon avis, une pièce maîtresse de sa discographie. En voici d'ailleurs un extrait avec un titre qui s'appelle Iron Crown. Voici The Crown sur Bike FM. The Crown avec le titre Iron Crown du death bien trashy, un extrait du nouvel album qui s'appelle Cobra Speed Venom qui sort aujourd'hui. Donc si vous avez aimé les tout premiers albums du groupe, je dis n'importe quoi, les tout premiers albums du groupe, que vous êtes moins fan des derniers, je pense qu'il y a moyen de rattraper tout ça avec ce nouvel opus qui paraît aujourd'hui et que je vous conseille. Alors là on va changer mais radicalement de style. On va aller maintenant vers un hard rock, Southern rock, avec un groupe qui s'appelle Okjo, et qui sort également aujourd'hui un nouvel album qui s'intitule Way Down Yonder. Alors, qui est ce groupe Okjo. C'est un groupe qui nous vient de Phoenix dans l'Arizona, qui existe depuis 2006. Donc je vous disais, hein, c'est du Southern Rock teinté de sonorités hard rock, alors plutôt 70-80. Parmi les influences du groupe, on trouve bien évidemment Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band, mais aussi bien d'autres artistes qui viennent du blues, du rock, du country et même du metal, puisque ils citent par exemple Metallica, Slayer aussi parmi leurs influences. Alors Okjo évolue sous forme de quatuor, dont les musiciens ont pour particularité de ressembler à quatre bûcherons américains. D'ailleurs, la nature, c'est un élément essentiel dans l'univers du groupe, qui la met souvent en valeur dans sa musique, mais aussi sur ses pochettes de disques. Et Okjo, c'est aussi un groupe qui revendique régulièrement son attachement à ses terres, ses racines et aux plaisirs simples de la vie, comme par exemple une partie de pêche ou un barbecue entre amis. D'ailleurs, le mot Okjo, c'est un vieux mot utilisé dans le sud des États-Unis pour désigner quelqu'un qui a tendance à profiter un petit peu trop des bonnes choses, à trop manger, à trop boire. Voilà, un épicurien, on pourrait dire, avec un joli terme français, si on devait un peu résumer ce mot. Sinon, de qui se compose Okjo ? Alors, au chant, on retrouve John Bo Jones, il y a Jimmy Rose à la guitare, il y a Elvis Didi à la basse et Qual à la batterie. Ils ont 12 ans d'existence, je le disais tout à l'heure, et sur cette période, ils ont sorti 6 albums studio. Le premier, c'était Devil in the Details, qui date de 2008. Et le dernier en date, bah, du coup, jusqu'à aujourd'hui, c'était Rise to the Mountain, qui sentait bon les reliefs boisés et montagneux des rocheuses qui traversent ce fameux état qu'est l'Arizona. État si cher au cœur du groupe qu'il nous propose de nouveau de le sillonner à travers Way Down Yonder. Alors après nous avoir fait visiter le désert, les montagnes sur les précédents disques, cette fois-ci ils vont nous emmener dans les marécages, car oui, il y a aussi des marécages en Arizona, on le sait pas forcément. Alors bien sûr, vous aurez compris que la nature était encore une fois au centre de ce nouvel album qui reflète à la fois l'envie d'aller voir vers d'autres horizons, mais aussi le bonheur de rentrer à la maison, qui nous raconte dans un autre registre aussi des histoires cette fois fantastiques qui sont peuplées notamment de sorcières. Tout ça à travers un mélange parfait entre rock, blues, country et hard rock. C'est entraînant, c'est envoûtant. On écoute tout de suite un morceau qui s'appelle Brown Water. Alors c'est quoi Brown Water ? C'est pas de l'eau marron dégueulasse, non, c'est une ode en fait à un des breuvages préférés de John Bo Jones. Vous aurez peut-être reconnu qu'il s'agissait du whisky. Et je rappelle que l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Broke Joe sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Me Load avec le titre Brown Water, extrait du nouvel album Way Down Yonder qui sort aujourd'hui, que je vous invite à découvrir si vous aimez eh bien ce rock sudiste avec ses sonorités bien hard rock, bien présentes. C'est vraiment super sympa, moi je vous conseille, il y a un vrai univers à découvrir et en plus les pochettes sont plutôt belles, donc allez voir leurs photos aussi, allez voir la photo de ces quatre bûcherons là, c'est assez rigolo. On va rester peut-être aux États-Unis, on va changer d'état, un état qui est tout proche puisqu'on va se rendre en Californie maintenant, alors avec un projet bien plus singulier que ce qu'on vient d'écouter maintenant, du moins au début puisque là on arrive vers quelque chose d'un peu plus classique avec le nouvel album. C'est un groupe qui s'appelle Earthlace qui sort aujourd'hui même un nouvel album qui s'appelle Black Heaven. Alors Earthlace, c'est un groupe qui nous vient de San Diego, qui a vu le jour en 2001. Il a été fondé, il est toujours composé du trio Isaiah Mitchell au chant, à la guitare, Mike Edgington à la basse et Mario Rubalcaba à la batterie. Les trois musiciens, ils ont à l'époque le projet totalement fou et bien de créer un groupe de rock psychédélique instrumental qui mélangerait à la fois des influences issues du rock psyché en général des années 60, mais aussi du krautrock allemand et puis du heavy rock psyché japonais. C'est tout un programme. Alors la formule va quand même pas mal évoluer avec le temps. Aujourd'hui, on peut définir la musique d'Earthlace comme étant un hard rock psychédélique et cosmique avec quelques influences bluesy et stoner de plus en plus. Alors bien que le groupe ait quand même 17 ans d'existence, en tout et pour tout, il n'a sorti que 4 albums, du moins des albums studio. Il y a eu Sonic Prayer en 2005, Rhythm from a Cosmic Sky en 2007, From the Ages en 2013, et puis donc le Black Haven qui est tout frais du jour. Un quatrième album qui crée la surprise puisque pour la première fois on y trouve du chant. Je l'ai souligné tout à l'heure, jusqu'à présent Earthlace c'est un groupe 100% instrumental. Et bah franchement c'est réussi hein, cet ajout du chant. En plus ça change tout parce qu'il faut bien l'avouer, il était quand même parfois assez difficile de réellement apprécier les précédentes productions du trio sans avoir recours à quelques substances illicites. Alors que les fans se rassurent quand même, hein, on retrouve dans Black Heaven les guitares planantes, les riffs accrocheurs, les mélodies assez aériennes qui sont propres au groupe, mais avec cette fois un grain de folie purement stoner qui est mis en évidence par le chant de Isaiah. Avec cet album, on navigue entre le groove d'un Black Sabbath et la volupté d'un Led Zeppelin. En voici d'ailleurs tout de suite la preuve en musique avec un morceau qui s'appelle Gift by the Wind. We'll be right back. Earthless dans l'émission Check Me Load avec un titre qui s'appelle Gift by the Wind, extrait du nouvel album Black Event qui paraît aujourd'hui. Groupe californien trio qui nous fait du hard rock bien psychédélique, bien cosmique, c'est de plus en plus stoner, toujours ses influences bluesy. Là on était sur un morceau qui était très à la Black Sabbath quand même, et c'est des morceaux plutôt longs, donc là il était un petit peu coupé, on va dire, pour voilà, bah, pour gagner du temps et pour pouvoir vous passer un maximum de sons possibles, puisqu'il y a quand même pas mal de sorties en ce moment. Alors j'en loupe plein, hein, je sais, on essaiera de faire une émission dans laquelle on reviendra sur quelques pépites voilà qui sont passées à travers les mailles du filet. Et justement là j'en ai une qui date de février et je pensais qu'il sortait en mars et j'étais eu, voilà, je l'avoue. Donc je me rattrape aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Turbo Negro qui a sorti le 2 février Rock'n'Roll Machine, son nouvel album. Turbo Negro, un groupe qui nous vient de Nesodden, alors c'est tout près d'Oslo, en Norvège, qui existe depuis 1989. Leur style, alors c'est assez divers et varié, c'est un mélange de punk, de heavy metal, de hard rock, que le groupe appelle lui-même du death punk. Parmi les nombreuses influences du groupe, on peut citer alors Black Flag, les Rolling Stones, Kiss, Venom, AC/DC, Iggy Pop, les Stooges, les Ramones ou encore Alice Cooper, et là je vous en donne qu'un bref résumé. À noter également que Turbo Negro est connu pour s'être souvent attaqué au politiquement correct dans ses chansons, dans lesquelles on trouve également pas mal de références au sexe, ainsi qu'une bonne dose d'humour assez corrosif. Alors, Turbo Negro, en pas loin de 30 ans de carrière, c'est un groupe qui a vu passer en ses rangs une vingtaine de musiciens. Il a également connu deux périodes de hiatus. Il y en a eu une entre 98 et 2002, puis une seconde un petit peu plus courte entre 2010 et 2011. Des membres fondateurs, il ne reste aujourd'hui que Thomas Seltzer, alias Happy Tom, qui était au départ batteur du groupe, qui en est maintenant le bassiste. Et puis Rune Grown, alias Rune Rebellion, qui est un des guitaristes. Quant au micro, et bien depuis 2011, il est tenu par Anthony Madsen Sylvester, alias The Duke of Nothing. Côté discographie maintenant, Turbo Negro a sorti son premier album Hot Cars and Spent Contraceptives en 92, mais c'est à partir de son cinquième album, probablement un des meilleurs d'ailleurs, Apocalypse Dude, en 93, que le combo norvégien va commencer à connaître un réel engouement. Depuis, le succès a été grandissant, hein. Sexual Harassment, qui était sorti en 2012, s'est même classé aux États-Unis, ce qui a été une première pour le groupe, qui compte bien faire encore mieux avec Rock'n'Roll Machine, paru donc en février. Un dixième album qui rend hommage à la fois à AC/DC mais aussi en règle générale au rock, au hard rock et au hair metal des années 80. Les ombres de Van Halen, Poison, Cinderella ou même Scorpion ne planent jamais loin. Et ça, donc c'est tout ça à travers une collection de 11 nouvelles compos, dont quelques tubes en puissance, faut bien l'avouer. C'est efficace, c'est fédérateur, c'est entraînant et les concerts promettent d'être chaud bouillant pour cet été. Alors pour voir Turbo Negro en live en France, ce sera rendez-vous au mois de juin, le 16 d'abord au Download et puis le 24 au Hellfest. En attendant, bah voici un extrait de Rock'n'Roll Machine en studio avec un titre qui s'appelle Fist City. You think you're tough, been starting riots on your phone. All alone. It's time to say enough. I'm gonna give a dog a bone. You say you like it rough, so I just left the gloves at home. I'm setting off to where the sun has never shone. This city. You've been acting up. Turbo Negro à l'instant avec Fist City, un extrait de Rock'n'Roll Machine. Vous êtes sur Bike FM 106.1 et vous êtes bien sûr dans l'émission Metal Check Me Load. Donc voilà pour Turbo Negro. Allez, on part direction la fête foraine maintenant avec Dusk of Delusion. Je vous en ai parlé la semaine dernière à l'occasion de la sortie de Funfair dont on a découvert un extrait vendredi dernier. Dusk of Delusion, je vous réexplique en trois mots, c'est un groupe qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, qui existe depuis 2016 à peu près, qui a été créé par Mathieu Morand, qui est également guitariste de Elva Ron, de La Horde, d'Acroma, de Luca, et Julien Skorka, qui est lui aussi bassiste d'Elva Ron et de Luca. Et c'est un groupe qui est né de la volonté de ses membres de faire une musique à la fois énergique, scénique, mélodique. C'est du néo-métal très organique, vous allez l'entendre. Et on aura d'ici quelques minutes Benoît Guyot, qui en est le chanteur, qui est également un des compositeurs, puisque c'est à lui qu'on doit les paroles. Et Funfair, donc ce premier album, est un concept album qui nous invite à visiter une fête foraine du début des années 1900. Alors ça rappelle pas mal l'univers du film Freaks, ça rappelle aussi pas mal la saison 4 d'American Horror Story, donc inspiré du même film. On trouve dans Funfair, dans chaque composition, une analogie entre un stand, son occupant, et qui nous présente plusieurs vices qui jalonnent nos sociétés actuelles. Voilà, donc on croise au fil de l'écoute un banquier jongleur, un joueur invétéré lanceur de couteaux, un manipulateur marionnettiste et puis tout plein d'autres monstres de foire. Je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance avec un morceau qui s'appelle White Wars, et tout de suite après donc on sera en compagnie de Benoît pour en parler un petit peu plus en détail. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. On vient d'écouter le titre White World du groupe Dusk of Delusion. C'est un extrait du premier album qui s'intitule Funfair, qui est paru le 9 mars. Et bien pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benoît, qui est le chanteur du groupe. Salut Benoît.
Salut, salut à tous.
Avant d'en parler un peu plus en détail de ce premier album Funfair, je te propose qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance à travers une présentation de Dusk of Delusion. Donc, alors, c'est sous l'impulsion, il me semble, d'un de vos guitaristes, Mathieu Morand, et puis du bassiste Julien Skorka, qui se connaissent bien, puisqu'ils travaillent ensemble depuis plus de 20 ans maintenant au sein d'Elvaron, qu'il est né ce projet. C'était en 2016, si je dis pas de bêtises, et la volonté première, c'était de se lancer dans des compos plus rentre-dedans que ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Est-ce que c'est ça?
C'est exactement ça, t'as très bien résumé. Mathieu et Julien se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils ont eu plusieurs groupes de musique ensemble, principalement dans le métal progressif, ouais. En fait. Et en septembre 2016, ils ont simplement eu envie de monter un projet qui soit un peu plus rentre-dedans, un peu plus punchy, plus orienté vers la scène aussi.
D'accord.
Et ils côtoyaient le batteur Romuald, qui me connaissait aussi, qui m'a introduit auprès d'eux, et puis petit à petit, on a constitué l'équipe qu'on est maintenant, avec Claude qui nous a rejoint quelques mois plus tard, quand la nécessité d'avoir une deuxième guitare s'est fait sentir.
Oui, tu disais que vous vous connaissiez avec Romu, vous avez bossé ensemble au sein de Icos, c'est ça?
Oui, exactement, au sein de Redline, qui est devenu ensuite Icos. D'accord. Mais c'est le même groupe. Et effectivement, on a travaillé ensemble. C'était déjà un projet néo-métal, donc on se connaissait et on savait la musique qu'on savait faire ensemble.
Bah justement, puisque tu l'évoques, le néo-métal, c'est le style musical de Dusk of Delusion. Hein, je crois que vous le revendiquez clairement, d'ailleurs, avec des influences qui viennent, alors pour certains. On va citer deux groupes, il y a Korn, il y a Slipknot, c'est pas tout, hein, ça se résume pas à ça, mais c'est vrai que c'est des influences qu'on retrouve quand même dans l'album. Alors, contrairement à l'image qu'on peut se faire du néo-métal qu'on a connu au début des années 2000, qui était quand même très synthétique, avec des machines qui étaient quand même pas mal mises en avant, moi je trouve que la musique de Dusk of Delusion, au contraire, elle est très organique. En ce qui concerne plus particulièrement, je donnerai comme exemple la batterie, mais aussi la production de l'album.
Oui, effectivement, t'as tout à fait raison. Définition du néo-métal que tu dis, c'est exact. Nous, ce qu'on lui préfère, c'est simplement une définition d'un genre fusion, en fait, entre le métal et d'autres styles. Et la batterie dont tu parles, en fait, elle est directement issue d'une vague de rock alternatif qu'on aime aussi beaucoup, qui revient pas forcément dans nos influences directes, mais qu'on D'accord. aime aussi beaucoup et qu'on retrouve dans le son général de l'album, comme t'as dit, effectivement.
Et alors moi je trouve qu'il y a beaucoup d'influences justement dans cet album. Des fois ça va presque même jusqu'à des influences plutôt heavy.
Oui complètement. Bah alors ça c'est complètement la patte de Mathieu le guitariste. C'est vrai que sur le son heavy il est imbattable là-dessus. et c'est vraiment son intention, les arrangements qu'il a fait. Il est pas à la composition de tous les morceaux, mais quand D'accord. il est pas à la composition, il est à l'arrangement, et les arrangements qu'il a fait clairement s'orientent lui écoute du Maiden assez souvent dans la journée, donc forcément à un moment ou à un autre ça influence ses arrangements. Hein.
Alors le premier album, je vais rappeler le titre, hein, il s'appelle Funfair avec le F entre parenthèses. Comme son nom l'indique, si pour ceux qui prendront la peine de le traduire, eh bien vous nous invitez à la fête foraine. Alors pas celle qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt une fête foraine des années 1900 qui est peuplée de personnages, voire de monstres de foire. Alors, ils sont des personnages qui viennent d'une fête des années 1900, mais qui font malgré tout écho à des sujets bien actuels, hein, si j'ai bien compris le concept.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, déjà au niveau du concept album, encore une fois, Mathieu et Julien sont des friands de concept album. Ils ne considèrent la musique que par les concept albums. Je dois bien leur rendre ça. À mon avis, ils ont tout à fait raison. La musique, c'est pas simplement des notes qui s'enchaînent. C'est aussi toute une idée qui va derrière. Et en l'occurrence sur cet album, c'est effectivement une balade dans une fête foraine typée 19e siècle, un petit peu comme celle qu'on a pu voir dans les freak shows de American Horror Story, d'une des saisons en tout cas de la série American Horror Story. C'est cette ambiance un petit peu malsaine et qui va, sur chaque chanson, dépeindre un stand et par analogie un vice ou un mal de notre société actuelle.
Bah justement, hein, t'as grillé ma question suivante parce que j'allais justement faire référence au film Freaks, à la série American Story, avec cette fameuse saison qui est inspirée du film. Donc c'est une des œuvres qui vous a inspiré alors pour l'écriture du disque.
Alors très honnêtement, non. En fait, c'est une influence qu'on m'a trouvée, mais après la sortie des chansons, on nous a dit ah bah tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ça.
Ouais.
Et moi, j'avais pas vu la série à ce moment-là. Je l'ai regardée après en ayant déjà les musiques de l'album dans les oreilles. Donc j'étais complètement biaisé au niveau de mon jugement. Effectivement, ça se ressemble. Il y a plein d'influences qu'on nous a retirées, d'influences visuelles, j'entends, qu'on nous a données. On nous a aussi parlé de Big Fish un petit peu.
D'accord.
Avec ses histoires du personnage du père qui conduit son fils dans une ambiance un petit peu. Alors j'ai moins vu Big Fish, donc je peux moins en parler, mais voilà, c'est tout un ensemble d'influences qui sont pas particulièrement des choses qu'on revendique, mais qui sont forcément des choses avec lesquelles on a grandi ou avec lesquelles on a évolué et qui nous parlent à un moment ou à un autre, même inconsciemment en fait, au moment de l'écriture.
Et au niveau des paroles, c'est toi qui es l'auteur de tous les textes ?
Oui, c'est moi qui ai écrit tous les textes, oui.
D'accord.
La plupart des idées sont de Julien aussi, mais les textes sont tous de moi.
Et niveau composition, donc tu disais tout à l'heure que Mathieu s'occupait d'une partie de la compo, mais voilà, tout le monde ajoute sa patte un petit peu à l'ensemble.
Ouais, c'est exactement ça, même pour les paroles en fait. C'est-à-dire que la majorité de l'album, on va dire les tiers de l'album sont composés par le bassiste Julien, l'autre tiers est composé par Mathieu le guitariste, les paroles sont entièrement écrites par moi, mais à chaque fois il y a un processus qui est d'ailleurs presque entièrement démocratique, qui fait que tous on discute des thèmes abordés, de tel ou tel riff, de l'emplacement de tel ou tel breakdown, et puis on va aussi discuter des arrangements, qu'est-ce
D'accord.
qui sublimerait mieux la musique, etc., etc. Donc on fait ça de manière vraiment tous ensemble.
Alors le disque, il a été enregistré, il a été mixé par Mathieu, et puis ensuite c'est Magnus Devo Andersson, qui est bien connu des fans de Marduk et de Metal Extrême en général, qui s'est chargé du mastering. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Magnus pour ce premier album?
Bah, plusieurs choses. En fait, déjà, le deuxième guitariste de Scope Diffusion, Claude, et le bassiste de Forsaken World. Et il se trouve que Forsaken World a fait la première partie de Marduk.
D'accord.
Il y a quelques années de ça. Et à faire, en 2012, je crois, et à faire plus de 45 dates ensemble, ils ont forcément tissé des liens. Et quand la question du mastering est venue sur le tapis, Claude nous a cordialement encouragé à aller voir Devo. On lui a envoyé une chanson pour faire un test, pour voir un petit peu le travail qu'il proposait, et très honnêtement, on a été conquis dès les premières auditions. Enfin, il a eu besoin de très 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 peu de retouches pour arriver au son qu'on voulait. Il est tout de suite rentré dans notre univers, tout de suite rentré dans ce qu'on voulait, et il a été absolument professionnel. Là, c'est vraiment son travail qu'il faut féliciter. Il a rajouté de la profondeur aux pistes qu'on soupçonnait pas, premièrement. Et puis qui vraiment ont sublimé toutes les chansons.
Alors on en a parlé tout à l'heure, hein, on peut considérer que Funfair c'est un concept album.
Ah oui, complètement, sans
voilà,
aucun doute.
On parlait du thème de la fête foraine, etc. Et donc impossible de pas s'intéresser aussi à l'artwork du disque, qui est vraiment très réussi, très joli, puisque il est à la fois sombre et lumineux. Et j'ai envie de dire qu'on a envie de plonger dans cet univers de fête foraine, un petit peu comme les personnages qu'on voit au premier plan. On est attiré par la lumière. Est-ce que tu peux nous dire qui en est l'auteur de cet artwork ?
Eh ben oui, c'est le Crematorium, alors que tous les fans du Hellfest du moins connaissent, puisque c'est lui qui est responsable des visuels du Hellfest depuis
D'accord.
maintenant 2 ans. Et c'est lui qui nous a fait la pochette. Et pareil, tout le mérite lui en revient, parce qu'il a fait un travail extraordinaire, très rapide. Il s'est très rapidement inspiré de nos textes, mais aussi de tout l'univers qu'il ressentait de ce groupe. Et il a fait un excellent travail. Et effectivement, moi, je suis toujours fasciné par ce point de fuite en fond de pochette qui réellement, c'est très très immersif. En fait, tout spectateur a envie de rentrer physiquement dans l'album rien qu'en regardant l'illustration. C'est très très bien fait.
Ah oui, c'est vrai que cette pochette, elle est frappante, et en plus, on n'est pas déçu une fois la touche play enclenchée. Ben voilà, on a l'impression d'entrer vraiment avec ces personnages au sein de la fête foraine.
Ben merci beaucoup.
Alors puisqu'on parle image, on peut également souligner que vous avez sorti il y a très peu de temps, fin février, un premier vrai clip, il me semble, avec White World.
Oui, effectivement, White Wars, le premier clip est sorti, c'était le deuxième single en fait, mais ouais. Le premier single était une lyrique vidéo pour donner envie au reste, et là le premier clip à proprement parler est sorti fin février avec White Wars, effectivement.
D'accord, donc c'est un clip qu'on peut visionner, que je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs. Bah, il suffit d'aller sur YouTube, hein, ou de passer par la page Facebook de Dusk of Delusion, pour aller voir un petit peu aussi ce que ça donne niveau visuel, puisque là aussi, hein, on rejoint toujours ce même concept de fête foraine.
Oui, je tenais simplement à préciser que là encore, on a eu affaire à des vrais professionnels qui sont rentrés très rapidement dans l'univers, et Maxime Fournier, en l'occurrence, qui est le réalisateur et qui est le réalisateur de ce clip, qui est un enseignant à... je ne sais plus l'acronyme en anglais, mais c'est un institut de cinématographie qui est à Aubervilliers vers Paris.
D'accord.
A fait un travail monstrueux. Il est lui aussi rentré dans l'univers très rapidement. C'était un véritable plaisir de tourner avec lui.
Donc l'album, il est dans les bacs depuis une semaine. Il est sorti le 9 mars. Maintenant, mm-hmm. Il va être temps d'aller le défendre sur scène. Est-ce que vous avez déjà des dates de calé?
Oui. Alors déjà, on a eu plusieurs dates. On a eu un fonctionnement un petit peu particulier par rapport à d'autres groupes. C'est que nous, on a voulu tester nos chansons avant de les mettre sur CD. On a voulu les tester en live. Donc on a déjà un certain nombre de lives à notre actif pour voir un petit peu le répondant que le public pouvait avoir.
D'accord.
Et cette fois-ci que les coups d'essai, entre guillemets, ont été réussis, on va commencer en avril par une première tournée dans un grand quart nord-est de la France. Je dis grand parce qu'il est très étendu. On va aller de Nancy à la Suisse entre le 21 et le 28 avril, en passant par, en l'occurrence, Paris le 22 avril. Il va y avoir Lille le 24, la Belgique le 25, Strasbourg le 26, Lyon le 27 et enfin la Suisse le 28.
D'accord.
Et puis derrière, on espère avoir des réponses positives de festival et puis peut-être sûrement une autre tournée plus au sud cette fois-ci pour l'automne 2017.
Très bien.
2018, pardon.
C'est vrai qu'on l'a pas précisé tout à l'heure, mais vous venez de la région de Nancy. Vous êtes donc plutôt bien placé finalement. C'est un point assez stratégique en France pour faire des concerts, pour aller sur la Belgique, pour arroser aussi pas mal la France, la Suisse, l'Allemagne.
Ah oui, c'est super, vraiment. Oui, c'est super. Le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse sont friands de ce genre de musique, encore heureux. C'est un petit peu moins le cas en France, même si je veux surtout pas casser du sucre sur le dos des organisations qui nous accueillent encore, hein, mais c'est vrai qu'en Belgique, en Allemagne, ils sont friands de métal et c'est un véritable plaisir de toujours se rendre là-bas et c'est très pratique d'être à Nancy pour ça, oui.
Bah en tout cas, on espère que vous allez venir un petit peu plus au sud de la France. Nous, on est au milieu, on est au plein centre, donc on vous attend à Nevers en espérant que vous allez venir nous voir.
Eh ben, ça tombe bien parce que normalement, ce sera sûrement prévu et c'est à peu près une exclusivité. Ce sera prévu à l'automne 2018 pour la deuxième tournée du groupe, là.
Eh ben voilà, on a une révélation en direct. Merci, Benoît.
Voilà.
J'en profite donc pour resignaler qu'on peut suivre toute votre actu. Alors, il y a un site officiel Dusk of Delusion. Il y a aussi une page Facebook sur laquelle on retrouve tout plein d'infos. Bien sûr, l'album qui s'intitule Funfair, qui est disponible depuis le 9 mars. Je te remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de l'album, pour parler du groupe. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir lors de votre passage vers chez nous à Nevers. Et pour conclure, je te propose d'écouter un second morceau de l'album. Alors, j'ai choisi le morceau The Juggler, que j'ai beaucoup aimé, avec notamment ce petit riff de guitare qui reprend l'entrée des gladiateurs qu'on connaît tous, si on est allé au cirque quand on était petit. Est-ce que ça te va?
Oui. Ah, ça me va parfaitement et ça ira encore mieux au guitariste puisque c'est vraiment son morceau préféré.
D'accord, et c'est parfait. Merci encore, Benoît, et puis je te dis rendez-vous à une prochaine interview alors.
Eh bien, avec grand plaisir et merci à vous pour votre travail.
Salut, à bientôt.
À bientôt, salut.
Dusk of Delusion à l'instant sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Le titre que l'on vient d'écouter, c'est The Juggler, extrait bien sûr du premier album du groupe Funfair, disponible depuis une semaine. Très beau morceau que j'adore, avec ce petit extrait dedans de l'entrée des Gladiators, cette célèbre ritournelle, bien qu'on entend à chaque fois qu'on va au cirque. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a quelques minutes, nous étions en interview avec Benoît, le chanteur du groupe, qui nous a expliqué donc un peu comment était né le projet, à quoi ressemble ce premier album et voilà, quelle sera la suite du programme pour Dusk of Delusion, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Allez, l'émission touche déjà à sa fin, le temps passe trop vite hein, quand je suis en votre compagnie, et bon, on va terminer avec la rubrique Sortez Cover, votre rubrique dédiée aux reprises. Je voulais annoncer en début d'émission, cette semaine on va rester dans la grande famille du métal, puisque c'est un morceau de Heavy revisité sous thrash que je vous propose avec la rencontre de deux légendes, celle d'Iron Maiden et de Metallica, à travers une reprise magistrale de Remember Tomorrow, une chanson parue à l'origine sur le tout premier album éponyme de Maiden, c'était le 14 avril 80, une époque où le micro était encore tenu par Paul Di'Anno. Alors, pour un premier album, Iron Maiden va connaître avec ce disque un succès plutôt conséquent dès sa sortie, qui s'est confirmé puisqu'à ce jour il s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, l'album Iron Maiden, et il fait partie de la fameuse liste des 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Tous ces albums sont référencés dans un ouvrage du même nom que je vous conseille si vous avez l'occasion de tomber dessus. Pour un premier album, ça je vous l'ai déjà dit. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que même si le morceau Remember Tomorrow n'est pas le titre le plus célèbre du disque, comme par exemple peut l'être Running Free, hein, au hasard, il en est pas moins une des très belles pièces du groupe qui annonçait déjà très bien sa carrière, qui allait se profiler. Et notre incontournable combo de la New Wave of British Heavy Metal montre assez bien déjà ses grandes capacités. C'est une chanson qui est assez peu jouée en concert. On en trouve malgré tout une version live qui est chantée par Bruce Dickinson, puisque c'est une version qu'on trouve sur A Real Dead One qui est sortie en 93. Voilà, vous l'aurez compris, Remember Tomorrow, il fait pas partie des classiques du groupe. Pourtant, son impact a été visiblement relativement important. Plusieurs groupes l'ont reprise, comme par exemple Opeth, qui en propose une version intéressante sur l'album My Arms, Your Ears en 98. Une version quand même bien loin d'égaler la version enregistrée par Metallica, où les Four Horsemen se réapproprient littéralement le morceau, à tel point qu'on pourrait croire qu'ils en sont les compositeurs. Vous allez l'entendre, c'est assez hallucinant. Alors ce Remember Tomorrow par Metallica, je l'ai découvert comme beaucoup en 2016 sur l'édition de luxe de l'album Hardwired to Self-Destruct, mais il faut savoir que c'est en 2008 que le titre est paru pour la première fois sur une compile hommage à Iron Maiden qui a été offerte par le magazine Kerrang à ses lecteurs. Vous allez l'entendre, par rapport à Iron Maiden, la version de Metallica elle est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus agressive, plus rapide aussi. C'est vraiment du grand art. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter un très bon week-end sur Back FM. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Mais tout de suite, voici Remember Tomorrow d'Iron Maiden, revu et corrigé par Metallica. Salut à tous!
yesterday.